Le service pack, c'est il y a plusieurs niveaux. Il y a des relations. Il y a des relations au sein des équipes. Les équipes sont autonomes. Il y a les 2/3 du temps, ce sont en équipe que ça se vit. Il y a une dimension relationnelle tous ensemble, avec des plénières où on vit des choses. Et puis une dimension relationnelle avec les gens qu'on rencontre dans la rue, avec lesquels on peut partager, échanger. C'est un défi. Surtout pour ceux de l'équipe cuisine, hein. Ils ont de la peine à rencontrer les gens dans la rue, je sais pas pourquoi. Hein. Non, on a une superbe équipe. Merci Claude, hein, et d'autres. Et puis bien sûr, on veut vivre une relation, tout ça parce qu'on a une relation avec Dieu. Parce qu'au fond, on est convaincu qu'il y a un beau message à partager. À Pâques, puis tout au long de l'année, parce qu'au fond, Pâques, c'est valable toute l'année. Hein, Dieu n'est pas vivant que le lundi de Pâques. On le sait. Et bien au fond, Dieu, c'est un Dieu de relation. Depuis toujours. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Genèse 3, alors il vient de tout créer, Dieu, il a passé une petite semaine là, enfin une grosse semaine, il a tout créé, l'univers, tout ça, la terre, Adam, après il a créé, bon, Ève, je n'ai pas toujours compris pourquoi, mais alors, non mais là, c'est oui, c'est le sommet de la création, pardon, je sais que je voulais dire, c'est, voilà, le brouillon et Ève a été voilà, le chef-d'œuvre, merci, oui, c'est ça le mot que j'ai de la peine à prononcer, je sais pas pourquoi, le chef-d'œuvre, bon. Donc tout est parfait, le jardin, il fait pas de coups de soleil quand il bronze, enfin, il y a plein de trucs, vraiment ça marche bien. Et voilà que Adam et sa compagne, bon, il y a un petit souci, ils respectent pas la seule chose qu'il fallait respecter, bon, c'est la catastrophe, tout son plan, tout le plan, projet de Dieu, un petit peu anéanti, c'est peut-être pas le mot, mais enfin, il y a un vrai souci, c'est que d'un coup, ils vont pas pouvoir rester dans le jardin parce que, voilà, Dieu est saint. Et qu'est-ce que Dieu fait à ce moment-là? Donc, il sait que son projet de relation, d'éternité dans un jardin extraordinaire a capoté. C'est un mot québécois. Hein, j'arrive plus à trouver de mot français maintenant. Hein. Hein, capoté, vous comprenez. Hein. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il est au courant parce que Dieu, il sait tout. Hein, il ne sait pas tout à coup. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me semble. Il le sait. D'ailleurs, il le savait avant. Mais ça devient compliqué de comprendre pour nous. Mais il sait qu'il y a un souci. Et qu'est-ce qu'il fait au chapitre 3 de Genèse, verset 8, quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et qu'est-ce que Dieu fait? Il le cherche. Et Adam, tu es où? La relation. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis là, ben, il y a ce dialogue, hein, j'ai eu peur, je me suis caché, etc. Il y a une prise de conscience. Il sait qu'il a fait quelque chose qui est pas selon le projet de Dieu. Mais là, ce que je veux soulever dans ce verset de Genèse 3, c'est que Dieu cherche à être en relation avec Adam. Il aurait pu dire, bon, je suis au courant déjà de ce qui s'est passé. Bon, allez, hop, on recommence, je transforme en terre, on remélange et je donne. Non, il cherche la relation. Il est là et il est en relation. Et on voit que tout au long de la Bible, Dieu cherche à être en relation. Un peu plus tard, avec le peuple d'Israël, il dit, mais je vais prendre un peuple et je vais faire quelque chose de particulier avec eux. Alors, une relation particulière et ça devrait marcher là. Hein, bon, il y a eu Noé entre deux, enfin, il y a différentes choses, puis bon, et on va faire quelque chose de particulier. Alors, Jérémie 24 nous mentionne notamment ceci. Je veillerai sur eux pour leur faire du bien. Ça, c'est le projet de Dieu pour Israël. Je veillerai sur eux pour leur faire du bien et je les ramènerai dans ce pays. Je les restaurerai pour ne plus les détruire. Je les planterai pour ne plus les arracher. Je leur donnerai un cœur apte à reconnaître que moi, je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu, car ils reviendront à moi de tout leur cœur. Ça, c'est le projet de Dieu. Alors là, déjà, Israël est parti en exil, hein, à Babylone. Ils sont déjà, il y a toutes sortes d'histoires, mais Dieu dit, mais voilà ce que j'ai envie de vivre avec mon peuple, avec Israël. Un peuple qui a un cœur pour moi, qui me reconnaît comme leur Dieu. Ça, c'est, voilà, le désir de Dieu d'être en relation avec Israël. Et au fond, cette soif de la part de Dieu d'être en relation, elle est toujours valable. Elle est là. Je crois que ça fait partie de ce qu'il est. Il est un Dieu de relation. On le voit avec la Trinité, hein, Père, Fils, Saint-Esprit. Ils s'entendent bien. Et depuis longtemps, ça marche bien. Ils sont différents, mais il y a un exemple voilà, de relations où chacun a sa place, son rôle, son mandat, et ils œuvrent. Et de la même manière, il veut être en relation avec l'être humain, avec nous. Dans Jean 8, il est parlé d'une rencontre, d'une relation, un temps relationnel un peu particulier. Jean 8. Donc c'est une situation un petit peu particulière, c'est une histoire avec une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Donc pas le truc super tendance, hein. Déjà on est mal à l'aise quand ça arrive, moi j'aimerais pas, hein, personnellement, hein. Voilà, qu'on fait une grosse bêtise, on n'aime pas se faire prendre, hein. Mais là en l'occurrence c'est la grosse bêtise avec la conséquence que tu es lapidé, ça c'est la loi, hein. Alors ils l'ont attrapé, ils l'amènent devant Jésus, cette femme, et dit, il faut qu'elle soit lapidée. C'est la règle. Alors j'imagine le mal-être de madame, hein, donc, hein. Et puis bon, c'est quand même la mort, la conséquence. Et qu'est-ce que fait Jésus? Parce que bien sûr que c'est un Dieu juste. Et qu'il connaît la loi mieux que tout le monde. Enfin, je veux dire, il a été élevé, voilà. Verset 5 nous dit, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme, et toi, que dis-tu? Alors c'est un petit test, hein. Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol, et comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol, et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, et à commencer par le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa, et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamnée. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va, et désormais ne pêche plus. » On pourrait se dire, face à une situation comme ça, c'est le couperet, c'est la justice, c'est oui, effectivement, c'est pas bien, et puis on... Alors, est-ce que Jésus dit le contraire? Est-ce qu'il dit, c'est pas grave, allez, ça peut arriver? Non. Il dit pas ça. Mais il remet simplement tout le monde face au constat qu'on n'est pas meilleur que cette femme. Personne. Même les religieux. Même les gens qui ont l'apparence que tout va bien. Et sa priorité, là, pour Jésus, c'est pas la justice, la loi, c'est l'individu, c'est cette femme. Qui certes a commis une erreur, et qui a besoin d'être reprise. Jésus lui dit, ne pêche plus, ne le fais plus, mais je ne te condamne pas. C'est la relation, c'est pas nos actes, c'est pas notre comportement, c'est pas notre passé, c'est pas nos mauvaises actions, c'est le projet de vie que Dieu a. Pas de condamnation, un accueil, un amour, un salut et un projet de vie. Cette femme a pu partir avec un projet de vie. Elle était vouée, selon la loi, à la mort. Et elle repart dans cette rencontre avec Jésus avec un projet de vie. Un salut. Elle a été sauvée. À ce moment-là, Jésus l'a sauvée. D'une mort, d'une lapidation. Tout en respectant la justice de Dieu. Tout en disant que on ne doit pas commettre ce genre de choses. Un projet de vie. La femme samaritaine, c'est la même chose. Hein? Combien de maris, cette femme? En plus, une samaritaine, on peut se dire là quand même, il y va fort, c'est interdit de parler aux samaritains. Il y a quand même une grosse barrière culturelle, historique, hein, de foi, une petite similitude, mais il y a quand même, c'est interdit. Donc il y a toutes sortes de choses que Jésus va dépasser. Il va aller au-delà de ce qui est normal, de ce que le bon sens, ou la culture, ou la tradition, ou la religion nous dit. Et j'aime cette histoire de la Samaritaine, parce qu'au fond, Jésus arrive et il est mentionné qu'il est fatigué. Il est fatigué, il s'assoit et dit « Donne-moi à boire ». Et moi j'aime, parce que déjà, si Jésus a été fatigué, ça me donne le droit. Hein, donc je vais m'asseoir maintenant. Mais au fond, peu importe notre état intérieur, Jésus était fatigué et il a pu quand même être dans cette relation-là. Une parole de connaissance, il lui parle de sa vie. Et de la même manière qu'avec la femme adultère, il n'y a pas de condamnation. Il y a un projet de vie, il y a un salut qui s'exprime. Et il y a une connexion, une relation qui s'installe avec elle. Et voilà, cette femme devient une témoin extraordinaire dans son village. Il m'a raconté toute ma vie. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Au-delà des conventions, au-delà de ce qui est normal. Pourtant, Jésus a quand même donné l'ordre à ses disciples de rester, de parler qu'aux Juifs. Et il a donné cette directive-là, mais bon, Jésus, il dépasse un petit peu. Je pense que, hein, il sait ce qu'il fait. Il va un peu plus loin. Il ne s'arrête pas à ce qui est normal. Il ose. Fatigué ou pas, il y va. Dans Matthieu 9, il est mentionné qu'il mange avec les pêcheurs. Il est tout le temps en train de relationner. Mais pas avec n'importe qui, pas juste avec ses amis, avec ses disciples. Il a pris du temps, bien sûr, des moments particuliers. Mais on voit qu'il passe beaucoup de temps avec les pêcheurs. Et on lui reproche. Comme j'aimerais avoir ce reproche dans ma vie. Tu passes trop de temps au bistrot. J'aimerais bien. Enfin, avec les pêcheurs, c'est dans ce sens-là. Voyons. Enfin, si on veut boire un coup, il suffit d'aller en cuisine. Hein? N'est-ce pas, Claude? C'est à cause de la raclette. C'est juste qu'il y a des traditions qu'on respecte quand même. Raclette plus vin blanc, c'est voilà. On s'excuse. Même si le service Pâques est un camp sans alcool. Je le rappelle aux plus jeunes. Merci. Non, je disais pas ça pour toi, Ruthline. Ne t'inquiète pas. Je sais que tu retiens jusqu'à mardi. Un temps relationnel. Il est là, il prend du temps, il mange, avec un objectif. Il a un projet de vie pour chacun. Il saisit l'occasion, il est là pour amener l'espérance, pour amener la vie, parce qu'il sait pourquoi il est là. Parce qu'il sait qu'il est sur cette terre, certes pour accomplir la volonté du Père, pour mourir et ressusciter, pour accomplir cet acte, ce don, et pour annoncer. Tout début de son ministère, il est là pour... Il lit le livre d'Ésaïe, et il proclame le mandat. Voilà, je suis là pour ça, pour annoncer. Annoncer la liberté, la libération. Il est celui qui est là pour ça. Et au moment de sa mort, Matthieu 27 nous dit ceci, qu'au moment où il est mort, le voile du temple a été déchiré. Ce voile était là, c'était le dernier rempart avant la présence de Dieu. Le grand prêtre, une fois par année, se rendait dans cet endroit, dans le lieu très saint, et était dans la présence de Dieu. Et ce voile a été déchiré. La barrière, ce qui limitait l'accès à sa présence, a été ôté. Il a tout accompli, c'est-à-dire qu'il a rendu possible un accès à sa présence, pour tous, pour celui qui croit, peu importe son parcours, son arrière-plan. Ce projet de salut, ce projet de vie est rendu accessible à chacun. Le voile a été déchiré. Et c'est pas anodin. Personne pouvait y aller. Enfin, qu'une seule personne pouvait y aller. Et aujourd'hui, nous sommes invités, chaque jour, à chaque instant, d'être dans cette présence. Et même plus, pour le croyant, sa présence, la présence de Dieu est en nous. Il fait de nos corps le lieu où il habite, son temple. C'est plus dans un endroit, c'est à l'intérieur de nous. Ça change quand même pas mal de choses. C'est quand même assez impressionnant. Une personne, une fois par année, a tous ceux qui croient. J'habite. Ma présence est là. Mais tout ça, c'est pas juste pour que, ben voilà, on soit au bénéfice de sa présence, et puis voilà, le salut, l'espérance me porte. Et c'est vrai que la présence de Dieu nous fait du bien. Sa parole nous enseigne, nous nourrit, elle nous éclaire. Et puis on est tout content, et puis on se réunit le dimanche matin. Et puis d'autres moments de la semaine pour les plus motivés. Mais si sa présence est en nous, c'est pour qu'on puisse accomplir une œuvre. On n'est pas sur cette terre juste pour venir le dimanche matin à l'église. Et juste pour faire un bon job, ou un job tout court. On n'est pas juste là sur cette terre pour ça. Il y a un mandat pour chacun. Dans l'évangile de Matthieu, il est dit pratiquement 50 fois « allez ». Et près de 1500 fois dans la Bible, il y a ce mot « allez ». Allez vers les brebis perdues d'Israël. Allez donc dans les carrefours. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez. Il y a cette invitation d'aller. Le service Pâques, nous allons. C'est un peu original de faire des crêpes. Hein, vous avez vu, on a fait des crêpes, pleines de plein palais, devant le skatepark, à 1,8 million. Voilà. Et c'est pas cher. Le gars m'a dit, c'est vraiment pas cher. OK. Et on fait des crêpes. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait des crêpes? Eh bien, il y a une file d'attente, parce que c'est long de faire une crêpe. Et le petit sketch que vous avez vu avec Alexia et d'autres, eh bien, mettez-vous devant la file d'attente, et moi j'ai fait, oh, voilà, on vous fait un petit sketch, tout ça. Ah ben, ils attendent leur crêpe, donc ben, ils regardent, quoi, forcément. Et voilà, ils font leur sketch, et puis après, comment, qu'est-ce que vous en pensez, blablabla, et on partage, on essaye. Voilà. On est là, simplement, présent, dans la rue. Et c'était un défi d'être dans la rue hein, cette année, un grand défi. Hein, on n'est pas censé être sur le skatepark. On n'a pas le droit d'être là. Mais on a trouvé des moyens d'y être. Des moyens légaux, je précise. Parce que le responsable du skatepark, en fait, il est à l'école avec le grand frère du responsable du projet. Ah, c'était drôle. Là, on a trouvé des moyens, on a contourné ceux qui s'opposaient à notre projet, à ce projet, cette année. Et les choses se sont ouvertes. Allez. Allez sans cesse. Allez porter cette bonne nouvelle. Allez vite dire qu'il est ressuscité. Ça, c'est l'ange qui parle aux femmes. Allez vite dire qu'il est ressuscité. Allez vite dire qu'il est ressuscité. Il faut se dépêcher. Il y a des gens qui sont en attente. Qui sont en attente d'être en relation avec Dieu. Parce que comme cette femme adultère, comme cette femme samaritaine, ils avaient besoin que Jésus vienne dans leur vie. Ils avaient besoin de cette intervention, de cette rencontre, parce que leur vie était en péril. Surtout la femme adultère. C'était la mort. Si Jésus ne serait pas venu, ne serait pas intervenu, ou aurait, voilà, peut-être pas su répondre. Peut-être que nous, on ne sait pas toujours comment répondre. Il faut être prêt, parce que la conséquence, c'est peut-être, non pas des lapidations physiques, mais c'est peut-être des morts spirituelles, des morts éternelles, on ne sait pas. Allez vite dire qu'il est ressuscité. Matthieu 28, verset 7 nous dit ceci. Allez vite dire qu'il est ressuscité. C'est notre travail, c'est notre mandat. Et pour ça, nous sommes invités à être en relation avec les pécheurs. Non pas qu'on est meilleur qu'eux. C'est pas ça le message. Mais c'est qu'on est avec eux parce qu'on sait que nous sommes aussi pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur, d'un salut, de cette vie en nous. Et nous sommes invités à vite dire qu'il est ressuscité. Demain, après-demain, chaque jour. Jésus est notre exemple, c'est notre maître. Je suis son disciple, nous sommes ses disciples, et là-dessus on est tous d'accord. Et en tant que disciples, nous sommes appelés à imiter notre maître, à faire comme lui, n'est-ce pas? Alors mourir sur une croix, ça s'est fait. Il a dit que c'était bon, tout est accompli, il n'y a pas besoin de le faire. Ok, ça nous rassure, on n'est pas obligé de mourir sur une croix, ça s'est fait. Mais tout le reste, on peut le faire. Être en relation avec des femmes adultères ou des messieurs. Hein. Être en relation avec des gens qui, voilà, des pécheurs, des païens. Prendre du temps avec eux. et être celui qui amène l'espérance, le projet de vie, le salut, qui partageons cette bonne nouvelle de la résurrection du Christ, cette bonne nouvelle que nous portons, que nous proclamons dans les églises, mais que nous pouvons amener sur les places, partout. Alors, venez avec nous cet après-midi, allez avec iPlay, le projet, soyez là, et regardez. Et pourquoi pas partager. Venez avec nous demain, même endroit, fête des familles, château gonflable, barbe à papa, crêpes, pop-corn, petit cake fait maison, thé et café. C'est que des outils. C'est juste un moyen d'être en relation avec les gens. On aime bien les barbes à papa, c'est vrai, d'accord. Ça attire les enfants. Et puis il y a plein de celui qui les fait, il en a plein les cheveux, c'est très mignon. Il a les cheveux tout roses. Mais on est simplement là, voilà, des chrétiens de toute la région, et on aimerait vous dire qu'on a une bonne nouvelle, que Christ est ressuscité, qui donne une espérance qui commence maintenant et qui peut durer jusque dans l'éternité. C'est notre mandat. Évidemment, il y a d'autres projets, hein, lundi de Pâques, repas de famille. Tout ça de choses à faire. Faut finir de ranger ça ou ça. Ok. C'est gentil pour la maison. C'est gentil pour la famille. Peut-être que dans la famille, il y a des gens qui ont besoin d'entendre le message. Donc, ça peut être aussi très bien de faire une fête de famille. Mais peu importe où on sera lundi, où on sera cet après-midi, soyons porteurs de cette espérance. Espérance de vie que Jésus donne. J'aimerais simplement vous inviter à la prière. Il y aura un temps de prière communautaire tout à l'heure, mais j'aimerais simplement prier. Prier pour nous, pour que Dieu nous donne le courage et l'audace de briller. Qu'il nous donne l'audace et le courage de briller ici-bas, autour de nous. Père, c'est un défi. C'est un défi que tu nous lances, que celui d'être témoin de toi, de suivre, de te suivre, de suivre ton exemple, d'être en relation avec les pécheurs. Et Seigneur, on a tellement de choses, d'occupations, et peut-être d'autres priorités. Et je prie que tu viennes mettre de l'ordre dans nos priorités. Et que nous puissions véritablement être tes disciples, dans le sens que nous faisons ce que tu as fait, ce que les évangiles nous présentent. Alors évidemment, on ne va pas marcher en Palestine et avoir des milliers de gens autour de nous, mais peut-être que tu as déjà placé autour de nous des gens qui ont besoin d'entendre, et qui sont prêts à entendre la bonne nouvelle de Pâques. Christ est mort et ressuscité. Père, je prie pour que nos vies soient à ta ressemblance et portent ta lumière. Remplis-nous de ta force, remplis-nous de ta grâce, remplis-nous de toi, afin que nous osions être cette lumière et ce sel. Amen.
Je crois que tu es ressuscité. Je que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là.
Et je crois que tu es là.
Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir.
Tout puissant pour nous guérir.
Et par ta grâce nous pardonner.
Et je crois que tu es là.
Et je crois que tu es là.